Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. L'équipe du musée de Die au complet.
Pratiquement.
Presque. Presque. Chloé Cottereau, Jacques Planchon, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, Chloé, on s'est vu il n'y a pas très longtemps, donc toi tu travailles là-bas sur la partie diffusion, communication.
Hein. Oui, voilà.
Jacques, conservateur de ce musée.
Bah oui.
C'est comme ça qu'on dit. Nous allons parler des Journées nationales de l'archéologie. Alors c'est ce week-end en fait, hein, et il y en a une, enfin ce samedi 16, où vous allez proposer vous aussi quelque chose, Chloé.
Voilà, c'est ça. Alors les journées normalement de l'archéologie, ça se déroule sur 3 jours au niveau national. C'est organisé par l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive. Et donc, nous, on participe à ces journées, samedi 16 juin, toute la journée au musée.
Qu'est-ce que l'archéologie préventive ?
L'archéologie préventive, c'est l'archéologie qui consiste... les interventions qu'on fait avant des travaux d'aménagement. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un dépose un permis de construire, les services de l'État vérifient si c'est en zone archéologique sensible ou pas. Si c'est le cas, il y a une prescription archéologique qui se fait. Ça commence avec un diagnostic. Donc en gros, on fait des trous avec une pelle mécanique et on regarde ce qu'il y a dedans. Et s'il y a des choses intéressantes dedans, dans ce cas-là, ça peut se poursuivre par une fouille qui va prendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois ou plusieurs mois. Ça dépend de l'étendue du terrain et de la nature des vestiges. Et les travaux pourront débuter une fois que la fouille sera terminée.
Donc ce qui nous arrive systématiquement sur la commune de Die, par exemple, hein.
Alors systématiquement, ou pas presque. Tout à fait, mais pas loin.
Ouais.
Pas loin, puisqu'évidemment la ville de Die est une ville romaine, une ville médiévale. Autour de la ville de Die, il y a aussi des villas romaines qui traînent. Il y a des sites de l'âge du bronze, néolithique, enfin... C'est occupé depuis des milliers d'années, donc forcément ça a laissé des traces. Et régulièrement, oui, quand il y a des travaux d'aménagement à Die, il y a forcément une opération d'archéologie préventive.
Et alors comment on détermine une zone archéologique sensible ? Ce que tu disais tout à l'heure, parce que moi je vois dans certains villages un peu plus haut qui ont aussi un passé médiéval, les permis de construire passent très très vite, alors que pourtant il y a bien quelque chose dessous, il y a forcément quelque chose dessous.
Oui, alors ça, la zone archéologique sensible est déterminée à la fois par les connaissances qu'on a sur un territoire donné, en sachant qu'en général ces connaissances sont le fait de découvertes qui ont déjà été réalisées. Si personne n'a jamais fait de découverte, c'est pas qu'il y a rien, c'est juste qu'on n'a pas de connaissances.
On
peut n'avoir jamais fouillé, qu'il n'y ait eu jamais de découverte, et puis on va tomber par hasard sur quelque chose, parce que de toute façon, l'homme a occupé à peu près tout le territoire. Donc il y a des choses absolument partout. Elles ne représentent pas toutes un intérêt non plus qui va obliger à bloquer le terrain pendant des semaines ou des mois. Il y a aussi des tout petits sites qui ne présentent pas vraiment d'intérêt. Dans ce cas-là, ça va très vite. Mais c'est les connaissances qu'on a sur le territoire qui déterminent une zone archéologique sensible. Et puis après, l'administration quand même se remet par-dessus. Il y a toute une négociation entre le maire, l'intercommunalité, le préfet, les services de l'État pour déterminer si on met telle zone en sensibilité archéologique ou pas. Donc c'est pas toujours le reflet, enfin c'est jamais le reflet exact des occupations humaines dans le temps. C'est une sorte de consensus ou de négociations entre les données archéologiques connues, l'histoire du lieu, et puis la gestion administrative.
Bon là, je m'adresse aux chercheurs ou à ceux qui, participent à l'élévation de ce patrimoine par sa représentation, ce qui est votre cas. L'archéologie, les fouilles, des fois, ça gonfle.
C'est clair.
Voilà, les gens sont ennuyés, ça bloque des rues, ça pourrait être tout un tas de choses. Comment est-ce qu'on peut expliquer à la population le sens, l'intérêt que ça a de prendre le temps, finalement, de fouiller?
Alors, je dirais que c'est pas l'archéologie qui gonfle, c'est les travaux. Là, on le sait, à Saint-Pierre, par exemple, il y a des travaux partout, ça gonfle tout le monde. En fait, on a surtout hâte que ça soit terminé et qu'on puisse de nouveau circuler tranquillement. Bon, ça, c'est absolument habituel dans tous les cas de figure. L'archéologie, c'est une forme de travaux comme une autre de ce point de vue, c'est-à-dire sur le fait que ça gêne la circulation, ça gêne... On privatise pendant un certain temps un espace public ou un espace privé d'ailleurs, et on empêche les gens de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc forcément ça gonfle. Dans ce cadre-là, oui. Après, par quoi c'est motivé ? D'abord parce que c'est aussi un patrimoine, c'est-à-dire c'est notre mémoire. L'histoire, c'est souvent raconté par des livres, des écrits plus ou moins anciens, des synthèses, etc. Donc ça, c'est facile. On va dans une bibliothèque, on a des bouquins d'histoire et on apprend tout ce qu'il y a à savoir ou tout ce qu'on pense qu'il y a à savoir sur un lieu.
Écrit par des gens pas tout à fait partiels, des fois. Hein.
Écrit par des gens qui sont des gens, voilà. Donc qui ont une objectivité relative ou une subjectivité relative. Le verre est toujours à moitié plein ou à moitié vide. Hein. Ça, c'est normal. Après, ça, c'est tout ce qui est écrit. Mais l'archéologie fournit des informations que les écrits ne fournissent pas. C'est-à-dire que l'archéologie vient compléter ce que disent les bouquins. Et en fait, vient compléter l'histoire d'un lieu. Donc l'histoire de la ville d'Audi, si on se basait uniquement sur les livres, on sait pas mal de choses, hein, mais ça serait totalement insuffisant. Et l'archéologie nous apprend tout le reste. Et puis l'archéologie, c'est pas uniquement de l'histoire monarchique, c'est-à-dire les rois de France, les guerres, les traités de paix, les grands édits. Bon, tout ça c'est bien, c'est vrai, ça marche. Mais après, l'histoire quotidienne, la vie des gens, les gens, c'est nous. C'est nous, mais ceux d'avant. Tout ça, les bouquins n'en parlent pas. Et ça, c'est l'archéologie qui amène du détail. Et en fait, je dirais que l'archéologie contribue aussi à humaniser cette histoire-là. Et puis cette histoire, on en a besoin. Alors évidemment, dans la vie de tous les jours, quand on est devant sa télé, pas plus que ça. Mais l'histoire et l'archéologie, c'est un petit peu l'analyse psychologique d'une société. C'est-à-dire que on va chercher à connaître son passé, éventuellement avoir les traumatismes qu'on a subis dans l'enfance. Il y a tout ce travail-là qui peut se faire au niveau individuel, pour aller mieux. Et au niveau d'une société, ce travail, il se fait dans le cadre de l'histoire et de l'archéologie. Donc ça aussi, on en a besoin. Parce que si on sait d'où on vient, si on sait ce qui a été fait avant nous, si on comprend aussi les erreurs qu'on a pu faire ou les réussites qu'on a pu avoir dans le passé, ça permet aussi d'avoir de meilleures idées sur ce qu'on pourrait faire maintenant.
Jacques, est-ce que tu aurais un grand exemple facile, évident, ici, localement, une découverte que l'archéologie a permis de combler entre ce vide de l'écrit et du réel sur la ville de Die, et qui d'ailleurs nous sert encore?
Alors, gros défi. C'est un gros défi. Est-ce que ça nous sert? Ça dépend des gens. Il y a en effet des gens dont c'est absolument pas la tasse de thé et qui en ressentent absolument pas le besoin. Bon. D'autres qui s'y intéressent plus. Donc là, c'est à chacun de se faire son opinion. Simplement, sur l'archéologie qui comble des lacunes, il y a déjà tout ce qui se passe avant l'histoire, avant que les hommes du coin sachent écrire, et compris ou inventer l'écriture. Et ça, là, il n'y a pas de bouquin là-dessus. Il n'y a que l'archéologie qui peut nous amener des données. Et l'histoire arrive ici vers 125 avant Jésus-Christ. Bon, c'est une date butoir, mais ça se fait progressivement. L'homme existe dans la région depuis une centaine de milliers d'années. Donc en gros, on a 2000 ans d'histoire et on a plus de 100 000 ans de préhistoire qui ne sont pas documentés par des bouquins. Donc ça, c'est l'archéologie et uniquement l'archéologie. Et c'est intéressant aussi pour nous de savoir ces gens qui sont arrivés il y a super longtemps, dans des conditions climatiques différentes, comment ils se sont adaptés à ces conditions climatiques, comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, qu'est-ce qu'ils ont inventé pour s'en sortir. Et on se dit, tiens, au fait, nos conditions climatiques, elles changent aussi. Là, il y a peut-être des petits enseignements à tirer de ça. Est-ce que les conditions climatiques qui changent, ça change complètement la façon de vivre? Est-ce qu'on est capable de s'adapter? Là, la préhistoire nous répond. Elle nous répond, oui, sans doute, on peut s'adapter.
Ouais. Même sans bougie. Hein.
Même sans bougie. Et puis là aussi, c'est ces études-là, c'est-à-dire tout ce qui est archéologie, histoire, qui nous permet de comprendre en quoi l'homme peut avoir une incidence sur le changement climatique et éventuellement quels sont les éléments qu'on pourrait mettre en œuvre pour s'en sortir sans complètement abandonner notre façon de vivre. Parce que moi aussi, j'aime bien aller faire un tour en bagnole. Et puis de toute façon, ici, si on veut se déplacer, c'est un petit peu difficile de faire autrement, enfin, etc. Donc voilà, c'est l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, et puis d'autres beaucoup plus anciens, mais c'est quand même notre histoire. Et ça sert à avoir une réflexion un peu plus globale et pas rester juste le nez sur l'actualité.
Et enfin, puisque tu le lançais tout à l'heure sur cette histoire de travaux sur la place Saint-Pierre, est-ce que l'archéologie préventive peut aller jusqu'à influencer sur les choix urbanistiques ?
Oui, oui, bien sûr. Alors après,
est-ce que ça a été le cas à Saint-Pierre ? On dirait pas.
À Saint-Pierre, non.
Voilà.
Non.
Ça, c'est dit.
Il faut dire que sur 10, c'est rare qu'il y ait une véritable influence de l'archéo sur les travaux. C'est arrivé de temps en temps. Hein. Mais simplement parce que les vestiges qui nous intéressent sont très profondément enfouis. Et donc, ils sont rarement visibles après la fouille. Et donc, il n'y a pas de raison d'en tenir vraiment compte dans les travaux d'aménagement. Cela dit, il y a une petite inscription sur le sol de la place de la République avec marqué « cloître ». Là, c'est justement une des incidences des travaux d'archéologie préventive, parce qu'on a pu trouver une partie du cloître médiéval, et on a pu donc l'indiquer au sol de façon à en garder la trace, en garder un souvenir. Puis ça permet d'animer un petit peu les visites de la ville, ça permet d'avoir quelque chose à montrer, parce que sinon tout est en dessous et on ne voit rien.
Oui, voilà, c'est ça que je viens de comprendre. Donc c'est sous une épaisse couche de la ville de Die, elle est par exemple plus haute de combien, on le sait, par rapport à...
Alors c'est variable, parce que la ville de Die, enfin, avec le temps, je dirais que les terrains se sont aplanis. Enfin, l'action humaine a aplani les terrains, mais sous la place de la République, les sols romains sont à 2,80 m de profondeur. Donc c'est très bas. Sous la place Jules Plan, les sols romains sont à 1,20 m de profondeur, grand maximum.
Ouais,
donc
ouais,
voilà. Donc la topographie antique était beaucoup plus bouleversée que la topographie actuelle, mais de toute façon ça reste profond. Et donc il n'y a rien de visible, ou pas grand-chose de visible en élévation, dans ce qui est fouillé. Après, on a quand même quelques vestiges qui sont apparents, qui ont fortement influencé sur l'urbanisme et qui continuent à le faire, d'ailleurs, au moins dans la tête des gens. On a un rempart romain.
Ouais.
Alors celui-là, on le voit bien parce qu'il a des hauteurs qui peuvent monter à plus de 14 mètres. Donc là, il n'y a pas de problème, on ne peut pas le louper, enfin quand il n'est pas trop embroussaillé. Et ce rempart, dans l'inconscient collectif, il sert aussi toujours à limiter le centre-ville. Les Diois ne se considèrent pas Diois de la même façon selon qu'ils habitent à l'intérieur du rempart ou à l'extérieur du rempart. Quelqu'un qui habite rue Adolphe Ferrier, il sera plus ou moins urbain selon qu'il est en rive droite ou en rive gauche de la rue. Enfin voilà, c'est assez amusant de voir comment dans la mentalité des gens...
Comment ça se caractérise ça ?
Ah bah il y a ceux qui habitent vraiment en centre-ville,
ouais,
donc... et puis il y a les autres.
Et les autres, c'est parce que les autres se disent ne pas habiter en centre-ville, quoi,
c'est
simplement.
Pas clairement dit, c'est ouais. Plutôt dans l'inconscient collectif.
Ouais.
Mais ça a influé sur l'urbanisme aussi, c'est-à-dire qu'en centre-ville, on continue à avoir un urbanisme extrêmement dense, avec des petites maisons, des petites surfaces.
Mmh,
et
très
dès qu'on sort du rempart, on se retrouve dans un urbanisme lâche, c'est-à-dire avec des villas, des lotissements, etc. Et l'urbanisme serré, c'est-à-dire que la ville elle-même, le centre-ville, ne s'est jamais agrandi au-delà de ses remparts.
Oui, il ne peut pas. Ouais,
il pourrait. Hein. Ouais. Rien n'empêcherait de requalifier le quartier Saint-Marcel. Rien n'aurait empêché, au lieu de bâtir 3 cubes en béton, les résidences du parc, de faire un nouveau quartier urbain en urbanisme dense. C'était tout à fait faisable. Mais c'est pas les options qui ont été prises, et ça a jamais été discuté, on est vraiment dans l'inconscient collectif, donc c'est très drôle de voir comment ça influe.
On en apprend toujours une avec Jacques Planchon, moi j'aime beaucoup ça. Chloé, je reviens un peu vers toi, parce que ça fait longtemps que t'as pas parlé. Présente-nous un peu donc cette journée nationale de l'archéologie, donc du samedi 16 juin, qui va se passer au musée Die.
Voilà, alors l'année dernière on avait fait une journée thématique autour des enduits peints, dans la ville de Die, et cette année on a choisi une autre thématique importante qui est les fouilles archéologiques en contexte funéraire, c'est-à-dire dans le Diois ou dans la Drôme, les fouilles qui ont pu avoir lieu dans des contextes funéraires à différentes époques, que ça soit préhistoire, antiquité ou Moyen-Âge, époque un peu plus moderne. Donc on va
c'est-à-dire on fouille des on excavacre comment on dit, je sais plus. Enfin bon, on fouille des tombes ou simplement on déplace les cimetières.
Ça peut être les fouilles de sépultures. D'ailleurs, ça a eu lieu
place
de la République, quand il y a eu les fouilles archéologiques.
Ah bah oui, en l'occurrence, là, c'était un cimetière, effectivement.
Ouais. Voilà, c'est ça. La plupart du temps, quand on est sur une époque médiévale, autour d'un édifice religieux, on va retrouver de toute manière des sépultures, donc c'est obligatoirement fouillé. Et puis, il y en a d'autres, des contextes funéraires. Pendant l'Antiquité, on avait plusieurs nécropoles à Die, qui ont elles aussi été fouillées et qui ont apporté des connaissances sur ce domaine-là et également pendant la préhistoire. Donc voilà, on a choisi cette thématique des contextes funéraires et on va proposer un programme autour de ça. Ça va commencer en réalité dès le vendredi soir parce que l'association Les Amis des Arts et du Musée propose vendredi une conférence qui sera faite par Jacques au Palais Social. Donc, il parlera des rites funéraires dans la Drôme.
Sur la vallée de la Drôme.
Voilà, ouais. Sur la vallée de la Drôme. Ça aura lieu donc vendredi 15 à 17h.
En parlant de ces rites funéraires, ou en tout cas de tombes, hein, on a souvent reçu à cette antenne l'association de sauvegarde des cimetières familiaux de la Drôme, c'est très très long à dire, qui a aussi relevé un certain nombre de cimetières tellement sauvage, tellement interdit que c'est en plein champ, ici il y a 2-3 personnes. D'autres endroits, moi j'ai entendu dire ça une fois dans un village, qu'on avait retrouvé des corps en plein champ qui n'étaient même pas non plus identifiés comme étant potentiellement des personnes de religion protestante. Peut-être des percepteurs d'impôts ou ce genre de choses. Ça, alors c'est le complet hasard qui nous permet de tomber dessus ou est-ce que, et du coup, ça a du sens, ça aussi ? Est-ce que ça montre un rite particulièrement ?
Alors, justement, bon, pour l'association de sauvegarde des cimetières familiaux, eux vont faire une intervention samedi, puisqu'ils proposent des visites de 2 cimetières familiaux à Valcroissant. Donc ils ont gentiment accepté de faire ces visites puisqu'on était dans un cadre de contexte funéraire. Alors là, c'est des cimetières d'époque moderne, c'est-à-dire après la Renaissance, évidemment, et surtout après les guerres de religion, puisque la naissance de ces cimetières familiaux, c'est surtout des cimetières protestants au départ, puisque les protestants n'ont plus le droit d'être enterrés dans les cimetières classiques, donc autour des églises, puisque les églises sont catholiques. Et ils n'ont pas d'autre choix que de créer leur propre cimetière protestants et familiaux. Et puis après, le temps va passer, les familles restent pas forcément protestantes, mais les cimetières familiaux, eux, restent familiaux. Et il y en a qui sont encore actifs, si j'ose dire, à l'heure actuelle. Donc c'est très bien que cette association ait pris ça en main, parce qu'on en a énormément dans le Diwa. Donc ils en font l'inventaire. Et l'inventaire, c'est que la première étape de la sauvegarde, c'est-à-dire qu'on ne peut justement essayer de conserver que ce qu'on connaît. Donc l'inventaire, c'est cette étape indispensable qui va permettre ensuite de faire de la typologie d'un côté, tout un travail de recherche, mais aussi de proposer aux propriétaires de ces cimetières, puisque ce sont des propriétés privées, des mesures pour les conserver, éventuellement les restaurer s'ils le souhaitent. Donc c'est un travail énorme. Ils en parleront pendant ces visites des cimetières de Valcroissant. De toute façon, ils ont aussi leur propre communication chez qui ils sont très actifs. Ces cimetières, donc on sait à peu près où les trouver, et puis après il faut faire de la prospection parce qu'on les connaît pas tous. On est loin de les connaître tous. Certains ont été utilisés très peu de temps. Il n'y a pas forcément de marquage de surface, c'est-à-dire des stèles, un muret, une grille, etc. Il y en a aussi qui ont totalement disparu. Donc c'est aussi une enquête de longue haleine. Après, quand dans la Pampa on trouve des corps, le plus souvent c'est en effet ces histoires de cimetières protestants. Éventuellement, ça peut être du cimetière médiéval dont le petit édifice de culte a complètement disparu, ça peut arriver. Et puis après, sans alimenter les légendes, ça peut être aussi des corps qu'on a enterrés là parce que il fallait bien les enterrer quelque part et que plus c'était discret, mieux c'était. Ça peut arriver dans les périodes de troubles, que ce soit pendant les guerres de religion notamment, que ce soit pour des problèmes internes, je veux dire des dissensions entre des particuliers. Et puis les derniers événements de ce genre, ça a été aussi pendant la dernière guerre, où il y a eu quand même quelques enterrements discrets.
Alors sans tout dévoiler, cette conférence du vendredi.
Alors cette conférence du vendredi, c'est un retour justement sur ces différents contextes funéraires en vallée de la Drôme. On va faire un survol chronologique, donc en démarrant au néolithique et puis en finissant justement avec les guerres de religion, bah, pas franchement au-delà, mais surtout en revenant sur quelques fouilles bien documentées et plus ironiquement sur quelques lacunes aussi. Par exemple, je ne vais pas déflorer trop le sujet, mais on ne connaît aucune sépulture de l'âge du fer. C'est-à-dire les Gaulois, on ne les connaît pas. Voilà.
Donc, on sait qu'ils étaient là, mais...
On est sûr qu'ils étaient là, ouais. Oui. Il n'y a pas de raison que ça ait... tout le territoire ait été abandonné pendant 6 siècles, mais on ne les a pas trouvés encore. Donc ça veut dire qu'on n'a pas regardé là où il fallait, certainement.
Ou alors qu'ils brûlaient peut-être leur corps.
Ce qui n'était pas une habitude gauloise. Après, je n'irai pas mais... au-delà, parce que sinon je vais faire la conférence ici et ça aura plus d'intérêt.
Très bien.
Mieux avec les images quand même.
Oui.
Mais voilà, il y a d'autres hypothèses pour expliquer éventuellement pourquoi on ne trouve rien. Mais ça, c'est... Voilà, on verra ça vendredi.
Bon bah, à vendredi, ça c'est un bon teasing.
Ouais, tout à fait. Et puis samedi, il y a une autre conférence qui est tout aussi intéressante, qui est sur une thématique... proche évidemment, mais légèrement différente. C'est André Rivalon qui était responsable de l'opération de Chamarge sur l'agrandissement de la zone artisanale et qui lui va nous parler de ses découvertes. Donc ces fameux tumulus, donc ces tas de terre et de pierre qui servent de tombe à l'âge du bronze. Donc il a passé près de 2 ans là, à faire la synthèse scientifique de ses recherches et il va nous en livrer le résultat. Et là, je ne pourrais pas vraiment faire de teasing puisqu'on en a très peu discuté. Donc je vais découvrir en même temps que tout le monde ce qu'il a à nous dire là-dessus. Et je pense par contre que ça sera très intéressant puisque c'est un site qui est quand même vraiment, vraiment passionnant, ce site des tumulus de Chamarge.
Voilà, donc un grand cimetière était à Chamarge d'une époque plus que révolue.
Alors, grand en taille, oui. Ouais. En nombre d'individus, c'est plus limité, mais un cimetière de grande taille et puis de grande dimension. Mais je vais pas
du coup, si voilà, mais du coup, on peut imaginer que s'il y avait très peu de sépultures sur un aussi grand espace, peut-être qu'ils étaient particulièrement riches, choyés, aimés, ces personnes-là.
Alors ça, c'est notre conception actuelle des choses. Je pense qu'André en parlera samedi et il nous expliquera qu'on n'est pas forcé de voir les choses de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de raisons qui vont pousser à honorer, on va dire, une personne défunte. Et ces raisons-là n'ont pas forcément un lien avec le pouvoir ou la richesse. Dans certaines sociétés, il y a des façons de voir les choses qui sont un petit peu différentes.
Tant mieux,
c'est d'ailleurs amusant. Ouais. Voilà. Mais justement, ça permet de s'évader un petit peu, de sortir de nos préoccupations journalières et de voir comment d'autres sociétés ont pu gérer les choses très très différemment. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Après, avoir des tombes de grande taille sur un espace, il faut se méfier. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe à l'endroit où on a fouillé, on ne sait pas ce qui se passe juste à côté. Et si ça se trouve, on peut avoir d'autres tombes d'aussi grande taille et en avoir comme ça des tas sur un très immense espace. Si ça se trouve, on est tombé vraiment sur le cœur de la nécropole avec les tumulus. Et autour, on peut avoir des petites sépultures très humbles, mais qui s'étendent sur, là aussi, plusieurs hectares. Donc en fait, on n'en sait rien.
L'archéologue doit être constamment frustré de ne pas pouvoir continuer d'avancer, décrocher toute la croûte de la terre.
Il y a sans doute un côté un peu masochiste. Ouais. on doit aimer la frustration de ce point de vue-là, parce que non, on n'a pas la possibilité de tout fouiller, bien sûr, donc on se contente des trous qu'on fait, et en sachant que peut-être quelqu'un, 50 ans plus tard, refera un autre sondage à côté et trouvera des choses tout aussi intéressantes, puis on le lui souhaite.
Masochiste, c'est aussi à cause de la brosse à dents, là. Moi, je trouve ça, c'est particulièrement masochiste. Fouiller à la brosse à dents.
Ça fait partie des idées reçues que peut-être on peut combattre encore. Bah justement, samedi, on va proposer un petit peu de mieux découvrir ce métier d'archéologue, les outils qu'il utilise, ce qu'on fait en archéologie. Donc, on va présenter la mallette de l'archéologue avec ses différents outils et on verra que la brosse à dents, elle n'est pas forcément, ça fait pas partie des outils les plus importants utilisés par l'archéologue. On le voit plus souvent. Avec une pioche ou une pelleteuse qu'avec une brosse à dents.
Vas-y Chloé, poursuis donc cette présentation du samedi, s'il reste encore des choses.
Alors oui, alors le samedi on sera ouvert en continu, donc de 10h à 18h, le musée sera ouvert. Ça sera ouvert gratuitement, librement, donc les gens pourront accéder à toutes les salles pour visiter de manière libre le musée. Et puis on va proposer aussi quelques animations. Alors on a des expositions qui seront visibles à l'étage, sur des fouilles qui ont eu lieu dans la Drôme, dans des contextes funéraires. Donc il y a des fouilles qui ont eu lieu par exemple à Valence. Et ce sont des panneaux qui présentent ces fouilles-là, qui nous sont prêtés par l'INRAP. Et on a également une projection qui parlera, qui montrera les fameux tumulus de Chamarge. qui seront présentées ensuite en conférence un petit peu plus tard dans la journée. Donc ça sera sur la salle d'exposition. Et puis on a aussi quelques objets qu'on a sortis des réserves, des objets qui ne sont pas forcément visibles d'habitude par les visiteurs du musée, qu'on a voulu mettre un petit peu en avant parce qu'ils ont quelque chose à raconter.
Donc, dans ce contexte funéraire, justement.
Voilà, tout à fait. Toujours. Alors ça va des objets qui ont été découverts, on en a quelques-uns qui viennent d'Égypte, par exemple, qui sont dans les réserves du musée. On a des choses plutôt en rapport avec l'Antiquité, qui est une période quand même importante pour la région. Donc voilà, différents objets qui seront visibles dans cette exposition. Après, on va aussi proposer aux visiteurs un petit livret qui leur permettra de se promener dans les salles du musée, parce qu'on a déjà des choses qui sont exposées tout au long de l'année, qui sont en rapport avec des contextes funéraires, que ça soit sur les différentes époques. Et donc là, on va proposer un petit livret d'accompagnement avec un peu plus de détails, un peu plus d'explications sur ces objets-là. Donc pour que les gens puissent visiter, faire un petit circuit librement dans le musée. Ensuite, alors là, on l'a dit, ça sera pas au musée, ça sera à Valcroissant, les deux visites guidées qui seront organisées par Pierre Martin et Jean-Claude Rouchouz, donc de l'association Sauvegarde des cimetières familiaux de la Drôme. Il y en aura une le matin à 11h, et la seconde, elle aura lieu l'après-midi à 15h. Et le rendez-vous sera pas donc au musée, mais directement sur les lieux à Valcroissant. Mmh. Voilà, normalement, ça sera indiqué, ça sera fléché pour pas que les gens puissent se perdre. Et donc, la conférence d'André Rivalan, dont Jacques parlait, sur les tumulus de Chamarges, elle aura lieu en fin de journée à 18h. Et là, par contre, ça sera au musée.
Ces objets-là, par exemple l'égyptien, on les découvre dans des tombes, c'est ça ? Ils viennent de la campagne d'Égypte ou quoi ? Jacques ?
Pas de la campagne d'Égypte, c'est des nécropoles qui sont là encore en bordure des villes égyptiennes. Ah. Alors ce sont des objets d'époque ptolémaïque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire égyptienne, les Ptolémées, c'est les descendants d'un des généraux d'Alexandre le Grand, donc grec de Macédoine, qui a conquis l'Égypte dans les années 320 avant Jésus-Christ. Donc ça fait un bail. Et en partant, il a laissé derrière lui un de ses généraux comme gouverneur d'Égypte. Je raccourcis rapidement l'histoire. Et ce général, il a fait des gamins qui ont été rois d'Égypte aussi, enfin pharaon donc. Et ça a duré un certain temps jusqu'à ce que la dernière reine d'Égypte, Cléopâtre, se retrouve face aux Romains et l'affaire se termine assez mal, enfin, même si c'est une des plus belles histoires de l'amour de l'Antiquité entre Marc-Antoine et Cléopâtre, mais ça se termine mal, ils se suicident tous les deux pour laisser la place à Auguste qui donc devient le premier empereur. Donc c'est quand même quelque chose d'assez illustre, mais justement cette Cléopâtre, c'est la dernière des Ptolémées. Et ce qu'on va présenter, c'est des objets qui sont justement de cette époque de la domination grecque sur l'Égypte, qui a tout un intérêt, puisqu'elle mélange les deux cultures, la culture purement égyptienne, et puis la culture grecque. Et justement, on présente des objets qui sont en rapport avec ça, et des objets qui ont été retrouvés dans des tombes. Et j'en dis pas plus, parce que si vous voulez en savoir plus, allez voir, ça vaut quand même le coup d'œil.
Rendez-vous samedi 16 juin, mais aussi vendredi 15, d'abord dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie au musée de Die et du Diwa.
Juste un truc, justement, oui. le vendredi, la conférence se fait au Palais Social.
Ouais, donc ça,
et c'est la journée de samedi qui se passe au musée, à l'exception des cimetières familiaux qui se font à Valcroissant.
Très bien. Un programme qu'on peut retrouver facilement quelque part ?
Sur notre site internet, donc www.museedediwa.org, et également sur la page Facebook du musée, Musée de Die et du Diwa, sur lequel on met régulièrement des informations, et donc le programme détaillé est disponible sur les deux.
Eh ben Chloé, Jacques, merci pour votre passage et à la prochaine pour la suite des programmes du musée.
C'est ça, et à samedi.
Et à samedi, bien sûr. Ouais. Interview.